Stéphanie m'a dit bonjour. Vous êtes consultante et formatrice. Vous avez enseigné le droit du travail à l'Université de Lille. Vous avez créé votre cabinet, l'art du dialogue social. Et vous êtes depuis quelques mois directrice du département formation, conseil et dialogue social chez Alixio. Merci de participer à ce podcast. Je vous écoute.
Merci, merci beaucoup Christian. Je suis ravie de faire ce podcast avec vous. Je vais tenter moi de vous parler, de faire un retour d'expérience et de voir comment la formation finalement s'inscrit dans les thématiques du dialogue social et comment on peut performer et parfaire toujours, rendre perfectives ces formations auprès des parties prenantes au dialogue social. Alors, comme on a pu le voir, de nombreux pays ont décidé de décentraliser la négociation collective et de la tourner davantage vers l'entreprise. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un intérêt réel? S'il est encore trop tôt pour le dire, la plonger au cœur de l'entreprise dans la pratique des relations sociales, avant et après le changement souhaité par le gouvernement depuis 2015 et puis après avec les ordonnances Macron, nous invite à réfléchir sur notre modèle social et sur l'ambition de ces acteurs. Alors, le dialogue avec la direction s'exprime de deux manières. On a les représentants du personnel qui sont consultés et qui rendent des avis, pendant que les représentants syndicaux négocient les règles contractuelles de l'entreprise dans les domaines limités par la loi. Schéma simple pour le moment. Alors, la pratique du dialogue social en entreprise, c'est un choix qui revient, à mon sens, en premier lieu à l'employeur. C'est un choix assumé, c'est un choix responsable et en réponse à la volonté des représentants du personnel de se placer comme partenaire, interlocuteur ou parfois adversaire de celui-ci. Alors, de la formation à la formation conseil, de la formation conseil aux formations communes, ou la nécessité de créer les conditions d'une ingénierie du dialogue social. Voici un retour d'expérience de 10 ans d'accompagnement des entreprises. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, après 10 ans d'enseignement universitaire en droit du travail, j'ai décidé de chercher un public qui était plus fécond, qui était plus concerné par le droit du travail dans sa dimension collective et individuelle. J'ai été recrutée d'abord par un cabinet spécialisé dans la formation de l'ensemble des parties prenantes au dialogue social. Une semaine avec les élus, une autre avec les managers, avec des membres de la direction, un accompagnement d'équipes syndicales et le soir un plateau média sur le décryptage des conflits. Mes domaines de prédilection, en plus du droit du travail, sont finalement les six dimensions que l'on va donner au dialogue social. La négociation collective, les échanges ou discussions, la diffusion d'informations, la consultation des salariés, la perception de l'utilité des salariés et les conflits et les tensions. Vous l'aurez compris, la diversité des publics et les sujets ne manquent pas. J'ai démarré cet accompagnement d'abord uniquement sous l'angle de la formation, des modules type catalogue assez généraliste qui me permettaient une sensibilisation à la matière, mais qui ne permettaient pas toujours d'aller finalement avoir une application concrète sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il manquait des éléments précieux de l'ingénierie. Car, pour ce que l'on dit en formation, que ce soit directement et concrètement applicable pour les stagiaires, il convient nécessairement de faire un travail de fourmi au préalable, surtout depuis les ordonnances Macron. Et c'est pour ça que je suis passée de la formation à la formation conseil. Je m'explique. Hier, en formation, j'expliquais le fonctionnement des instances représentatives du personnel à travers le prisme du Code du travail. Et le cas échéant, un accord de droit syndical, de dialogue social pour la cerise sur le gâteau de certaines entreprises. Je me faisais d'ailleurs appeler Madame Dalloz pour que les stagiaires comprennent bien et que ce soit bien clair. Aujourd'hui, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de santé, des conditions de travail, qui avaient été institués successivement en 1936, 1945 et 1982, ont été remplacés par le CSE, le Comité social et économique. Et le Code du travail, très souvent, aussi par un accord dit CSE. une vraie révolution pour tous les acteurs du dialogue social, autant que pour nous qui les accompagnons. Pourquoi ? Parce que la règle n'est plus générale, elle est devenue pointue, elle est devenue précise et adaptée à l'entreprise. On ne le dit pas assez, à mon sens, mais les représentants du personnel doivent se rendre compte, pour ceux dont l'entreprise a signé un accord, que c'est désormais la direction et les organisations syndicales, à quelques exceptions près, qui organisent désormais le fonctionnement, le rôle, les missions, les moyens des élus du CSE dans leur pratique des relations sociales et dans celle de la négociation collective. C'est extrêmement important. Alors, en tant que formateur, comment s'y prendre pour que les objectifs, et je dirais même les exigences de Calliope, notre nouveau sésame, vous le savez, pour entrer dans le monde de la formation professionnelle, soient respectés? Nous ne devons plus fournir du savoir, de la théorie, mais rendre nos parties prenantes le plus opérationnelles possible, les accompagner sur des compétences, sur ce que l'on appelle du soft skills, et moins sur un apport de connaissances théoriques ou catalogues dont il ne saurait que faire. Alors, vous me direz également, les ordonnances Macron ont permis d'aboutir à un fonctionnement des relations de travail au plus proche des entreprises. La valeur ajoutée des formateurs et consultants se réalise quand elle organise une véritable ingénierie pédagogique qui commence par une connaissance précise de l'entreprise à travers un recueil du climat social et des pratiques des relations sociales de l'entreprise. À quoi ça sert? Ce recueil permet de cibler les attentes précises des stagiaires en partageant avec eux leurs préoccupations terrain, en faisant l'état des lieux des outils existants et en les aidant à s'en servir d'une façon plus optimale, plus transverse, car le champ d'action du dialogue social, il est extrêmement large. Alors, une fois qu'on a posé ce diagnostic, les besoins sont plus clairs et les formations peuvent démarrer. On s'assurera après, au sein d'une deuxième étape, que les formations ont été utiles et quelques mois plus tard, auprès du N+1, par exemple, pour des élus ou des managers, par exemple, les changements concrets opérés en termes de bonnes pratiques et du dialogue social est réel ou pas. Et on le voit à partir du moment où on est proche, où on connaît l'entreprise, clairement, on ressent que les compétences sont beaucoup plus fortes. Alors, cette première étape, c'est-à-dire le passage nécessaire de la formation à la formation conseil, m'amène à une seconde qui consiste ensuite à réunir les parties prenantes. Et là, le jeu et l'enjeu est beaucoup plus difficile et finalement, c'est ce qui nous anime. Le volet précédent ne concernait en effet que des formations, conseils à des acteurs vus séparément. Les organisations syndicales, on les accompagne. Les représentants du personnel, on va les former à leur mandat. Et puis, la direction, on va la former au mandat de présidence du CSE, par exemple, ou à la négociation collective sur la partie RH et direction. Désormais, le deuxième volet, et c'est le volet qui nous anime, vous et moi, d'ailleurs, depuis plusieurs années, on va parler de formation commune au dialogue social. Alors, au vu de notre dialogue social assez postural, pourrais-je dire, pas facile d'entreprendre ce genre de formation. On va dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Ou alors, où chacun pour soi et Dieu pour tous. La méfiance, parfois la défiance, sont souvent ressenties que la confiance dans notre dialogue social à la française. Et pourtant, quelques expériences m'indiquent que petit à petit, l'oiseau fait son nid et que la multiplication d'expériences et surtout de retours d'expériences, comme vous le faites sur votre blog, ouvre le champ des possibles et qu'il serait souhaitable de continuer dans cette voie. Ce à quoi, personnellement, je m'attelle au sein du cabinet Alexio. Alors, je vais me faire rapidement le récit de trois expériences. La première, c'est que dans une grande entreprise qui comptait des milliers de petits établissements, j'animais le temps d'une journée une rencontre entre responsables d'établissement et délégués syndicaux centraux de toutes les composantes syndicales. Et il y avait 7 organisations syndicales. Chaque heure, une organisation syndicale venait se présenter aux 50-60 managers venus pour l'occasion. Un temps d'échange libre entre organisation syndicale et ligne managériale désacralisait le rôle des organisations syndicales. Les managers décryptaient leur mode d'action, mettaient des mots sur des incompréhensions qui les hantaient parfois même depuis des années, ils le disaient. On se présentait, on connaissait mieux l'autre, pour le lendemain mieux l'appréhender et comprendre son action. Comprendre ne veut pas dire accepter, mais sans jugement à la va-vite, et surtout en ouvrant un dialogue, en entendant et en respectant les points de vue de chacun. C'est une des formations que j'ai le préféré animer au sein de ma carrière. La seconde, elle est plus basique, mais elle est extrêmement riche également. Elle consiste à accompagner les acteurs patronaux, syndicaux, d'abord séparément, puis ensemble pour faire le point et écrire à deux un plan d'action pour un meilleur dialogue social, une meilleure communication, un meilleur axe de négociation. La troisième et dernière concerne vraiment la classe typique de la formation commune à la négociation collective. C'était un accord sur le bien-être au travail dans une grande entreprise de la distribution. Elle était d'abord basée sur une journée de diagnostic partagé, puis sur une connaissance commune du contenu de l'accord et sur un accompagnement par la suite par des rituels des parties prenantes séparément tout au long du processus de négociation. L'accord a eu lieu, il a été signé et formation a permis d'identifier les besoins, mais au préalable d'établir des relations sociales au quotidien plus saines avant même d'entamer la négociation collective. Ça a été, je pense, extrêmement riche pour cette entreprise. Toutes ces expériences m'ont été très utiles. Elles m'animent au quotidien. Petit à petit, pas de côté par pas de côté, les bonnes pratiques se font. L'envie de travailler ensemble, une fois que l'on se connaît mieux, cela se développe en entreprise, on peut le voir. À l'heure où le dialogue social est placé au cœur de l'entreprise, il est évident et que plus nous créerons de véritables outils opérationnels, pensés avec les parties prenantes, mieux nous assurerons les transformations de l'entreprise et de la société de demain. En tout cas, c'est mon intime conviction, Christian.
Stéphanie Matteli, merci beaucoup pour votre présentation et bon vent professionnel. Merci.